journal est présenté par Antoine Denecher.
Bonjour. Quelle mobilisation en ce 1er mai, un peu spécial, qui se déroule en pleine contestation de la loi El Khomri. À Paris, le défilé principal a lieu cet après-midi. Et dans un instant, nous irons prendre le pouls à Rennes, où la manifestation syndicale est en cours. Dans le calme, nous dira Romain Roux en direct, et avec moins de monde aussi que jeudi dernier. Le 1er mai, c'est aussi la date choisie par l'extrême droite pour célébrer Jeanne d'Arc. Pas de défilé pour le FN, mais un banquet patriote cet après-midi. Jean-Marie Le Pen, exclu du parti, a réuni, lui, ses derniers fidèles ce matin dans la capitale. Nous serons en direct avec Hélène Masquelier sur place. En Iran, une petite révolution dans le nouveau Parlement sorti des urnes hier. Il y a pour la première fois plus de femmes que de religieux, nous expliquera Siavosh Ghazi à Téhéran. Puis la face cachée du globe dans 10 minutes. Nabila Hamel fera réagir Médecins sans frontières après l'enquête américaine sur le raid meurtrier contre l'hôpital de Kunduz en Afghanistan. Au programme également le Koweït qui vient d'expulser plus de 40 000 étrangers en 16 mois. Et la Russie, où la romancière Ludmila Ulitskaya vient d'être agressée en plein Moscou par des militants pro-Poutine. Le 1er mai est la journée internationale de solidarité des travailleurs dans le monde entier. Vous le savez, aujourd'hui, des défilés syndicaux sont donc organisés partout en France, comme chaque année. À Paris, ce sera dans l'après-midi. D'un côté, les syndicats dits réformistes se contentent d'un rassemblement dans le 14e arrondissement. Et de l'autre, la CGT et Force ouvrière, qui n'avaient plus défilé ensemble depuis 7 ans, marcheront entre Bastille et Nation cet après-midi, avec également la FSU et Solidaires, ainsi que des organisations de jeunesse mobilisées contre la loi travail. Mais d'ailleurs, en France, beaucoup de défilés avaient lieu ce matin à Marseille, à Bordeaux, à Tours, à Nantes, à Cherbourg, à Saint-Étienne, etc., etc. Les cortèges d'ailleurs ne semblaient pas forcément très étoffés. Allons à Rennes, une ville qui depuis un mois maintenant vit au rythme de la mobilisation contre la loi travail et où la tension est forte depuis des affrontements violents jeudi dernier. Un jeune manifestant de 20 ans ayant même perdu l'usage d'un œil, il aurait été provoqué par un tir de flashball. Bonjour Romain Roux.
Bonjour.
Vous êtes en direct de Rennes où le défilé est en cours. Quelle est l'ambiance à Rennes ?
Eh bien, la manifestation se déroule dans le calme. Le début de cortège vient d'arriver au point de l'équation. Il faut dire que la préfecture a fait plusieurs gestes d'apaisement. L'accès à la place de la mairie a été autorisé par la préfecture. C'était une demande des manifestants depuis plusieurs semaines maintenant. Et puis le dispositif policier est certes important, mais il reste très discret, qui tranche avec l'ambiance des derniers défilés. Mais évidemment, les événements de jeudi sont dans tous les esprits. Des manifestants cagoulés ont repeint en rouge la passerelle où l'étudiant a perdu son œil gauche, avec cette inscription « La police mutile ». Les slogans dénoncent évidemment les violences policières. Les étudiants se disent encore très choqués par ce qui est arrivé à l'un de leurs camarades. À Rennes, ce 1er mai prend donc des allures de marche blanche. Mais c'est aussi peut-être un baroud d'honneur pour les étudiants. L'un d'entre eux qui a participé aussi au mouvement contre le CPE me le confiait ce matin. Les examens sont terminés, les cours aussi. Il sera beaucoup plus difficile de mobiliser au syndicat maintenant de prendre le relais effectivement.
Merci beaucoup Romain Roux, on l'a bien entendu, vous étiez vraiment en direct de ce cortège syndical à Rennes, Romain Roux de France Bleu Armorique. J'ajoute que Myriam El Khomri a déploré ce matin les caricatures, dit-elle, faites à propos de son texte. La ministre du Travail estime que désormais, je cite, le débat doit avoir lieu dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale et sous-entendu plus dans la rue. Rappelons que l'examen du projet de loi débute mardi, près de 5000 amendements ont été déposés. Le Front National fait aussi de ce 1er mai une date importante dans son calendrier, mais pour des raisons évidemment différentes. Il s'agit pour le FN de célébrer la figure de Jeanne d'Arc. Mais cette année, gros changement. Marine Le Pen s'est contentée de déposer une gerbe ce matin devant une statue de la Pucelle dans le 8e arrondissement de Paris. Et elle invite, en ce moment même, les militants et sympathisants de son parti à un banquet populaire et patriote, porte de la Villette. Ce qui ne plaît pas, vous le savez, à Jean-Marie Le Pen, désormais exclu du parti qu'il a lui-même fondé et qui avait appelé un rassemblement place des Pyramides dans le 1er arrondissement de la capitale devant une autre statue de Jeanne d'Arc. Bonjour Hélène Masquelier.
Bonjour.
Vous êtes en direct de ce rassemblement autour de Jean-Marie Le Pen. Comment se déroule-t-il ?
Eh bien, la foule se disperse ici autour de la statue de Jeanne d'Arc où plus de 300 personnes étaient présentes il y a quelques instants. Jean-Marie Le Pen vient de quitter la place après un discours très enflammé. Le président du Front National s'est présenté comme une figure salvatrice Nous sommes en danger, nous n'attendons pas que sonne le glas, il dit en introduction, avant de tacler sa fille Marine Le Pen, qu'il a accusée de lâcheté. Le fondateur du FN est ensuite revenu sur les fondamentaux du parti, les émigrés qui envahissent la France, avec un passage sur la chancelière Angela Merkel et sa politique d'immigration, carrément huée par la foule. Puis, pour ce traditionnel discours, Jean-Marie Le Pen a retracé l'histoire de la pucelle d'Orléans, Jeanne d'Arc, figure de l'identité nationale, un discours que beaucoup d'adhérents du Front National m'ont dit préféré à ceux de Marine Le Pen les années précédentes. Dans la foule sont présents des anciens amis de la présidente du Front National, comme Laurent Ozon, son ancien conseiller au parti. Jean-Marie Le Pen le dit, il veut réunir toutes les sensibilités d'extrême droite et au passage, il met en garde sa fille. Si elle persiste dans la division, elle court droit à l'échec pour les présidentielles de 2017. Le discours s'est achevé sous les applaudissements de la foule qui scandait en chœur Jean-Marie, président.
Merci beaucoup Hélène Masquely en direct sur France Culture. Je rappelle que Jean-Marie Le Pen a été exclu du parti par sa fille. C'est une visite qui n'était pas prévue dans le programme officiel initial. Manuel Valls se rendra demain en Australie. Le Premier ministre français est en pleine tournée dans le Pacifique Sud et il va aller saluer le méga contrat de 34 milliards d'euros conclu cette semaine entre l'Australie et le groupe français DCNS pour la fourniture de 12 sous-marins. La France et en premier lieu François Hollande n'a pas manqué depuis quelques jours de saluer un succès incontestable pour le savoir-faire tricolore en la matière. Mais on l'a moins dit, les systèmes d'armement et de combat de ces sous-marins seront installés par les États-Unis. Un choix stratégique logique, nous explique Camille Grand. Il est directeur de la Fondation pour la Recherche Stratégique.
Le bateau est vraiment fabriqué grâce au savoir-faire technologique français. En réalité, il y a peu de pays dans le monde qui savent fabriquer des sous-marins, ce qu'on appelle de classe océanique, c'est-à-dire capable d'aller très loin avec tout le système de propulsion qui va avec. À côté de ça, les Américains fournissent, et c'était une exigence des Australiens, ce qu'on appelle le système de combat. Donc la capacité de lancer des torpilles, de communiquer avec les partenaires de la marine australienne. C'était une exigence australienne parce que la marine australienne travaille constamment avec la marine américaine. Dans la mesure où l'Australie est avec le Japon et la Corée du Sud le grand allié des États-Unis dans la région, ils souhaitent donc être parfaitement ce qu'on appelle interopérable avec la marine américaine. Ce serait moins important, par exemple, quand la Malaisie a acheté des sous-marins à la France, il y a quelques années, elle n'a pas cherché à se doter d'un système de combat américain. Donc là, la situation propre, quasiment géopolitique de chaque pays, peut l'amener à faire des choix un petit peu différents. On a quand même la part du lion dans ce marché, hein. Évidemment, il y a un petit manque à gagner pour l'industriel qui aurait fourni ce système, mais c'est une part relativement marginale du contrat, donc je crois qu'il ne faut pas avoir trop de regrets sur ce plan.
Des propos recueillis par Mathieu Péris. Un attentat à la voiture piégée ce matin en Turquie. Il a visé un commissariat à Gaziantep, près de la frontière avec la Syrie. Bilan, un policier tué, 23 personnes blessées. Par ailleurs, les autorités turques indiquent que des attaques des Kurdes du PKK ont tué 3 soldats ce matin à Mardin. On vous parle depuis hier sur France Culture de ce nouveau parlement issu des élections législatives en Iran. Les modérés et les réformateurs alliés au président Rouhani arrivent en tête devant les conservateurs. C'est une première depuis 2004. Ils n'emportent pas pour autant la majorité absolue au Parlement, mais il y a d'autres évolutions importantes à noter, Siavosh Ghazi.
Le nouveau Parlement compte 17 femmes contre seulement 16 religieux, alors que le Parlement sortant compte 27 religieux contre seulement 9 femmes. L'évolution est encore plus importante depuis la révolution islamique de 1979. Le premier Parlement, élu immédiatement après la révolution, comptait en effet 164 religieux, soit 10 fois plus que le nouveau Parlement iranien. Le phénomène est encore plus accentué à Téhéran, puisque sur les 30 élus de la capitale, tous réformateurs ou modérés, il y a un seul religieux contre 8 femmes. Autre nouveauté, il n'y a aucune personnalité de premier plan parmi les religieux élus députés, contrairement aux 37 dernières années. L'actuel président Hassan Rouhani, l'ex-président Akbar Hashemi Rafsanjani ou encore l'ex-président réformateur Mohammad Khatami, tous 3 religieux ont été parlementaires. La plupart des religieux élus au nouveau Parlement sont conservateurs, mais 3 au moins sont réformateurs. Si le nombre des religieux parlementaires a chuté au Parlement, les religieux continuent néanmoins à occuper des postes clés au sein du régime, comme l'actuel président Rouhani. Enfin, en ce qui concerne les députés femmes, les partis réformateurs se sont engagés à faciliter leur présence dans la vie politique, signe de l'évolution de la société iranienne où les femmes sont de plus en plus présentes.
Siavosh Ghazi à Téhéran de RFI hein, pour France Culture. La face cachée du globe maintenant. Bonjour Nabila Hamel.
Bonjour Antoine. Cette chronique nous mène aujourd'hui en trois coins du globe. En Afghanistan, pour évoquer les conclusions de l'enquête américaine sur le bombardement d'un hôpital du nord du pays en octobre dernier. Au Koweït, où les expulsions d'étrangers s'accélèrent ces derniers mois. Et enfin, en Russie, où il est difficile, même pour une écrivaine mondialement connue, d'assister à un événement culturel sans être agressée. L'armée américaine exclut donc le crime de guerre et parle d'un incident provoqué par une combinaison d'erreurs humaines et de ratés techniques. C'est du moins la conclusion du rapport d'enquête rendu public vendredi après le bombardement de l'hôpital MSF de Kunduz au nord de l'Afghanistan. Nous avons demandé la réaction de Françoise Boucher-Saunier, directrice juridique de Médecins sans frontières.
Le premier point important pour MSF qui est confronté à beaucoup d'attaques aujourd'hui sur les hôpitaux dans toutes les zones de guerre, c'est de passer de la théorie de l'intention à la théorie de l'erreur. Ça, c'est un point important. Maintenant, on est obligé, nous, de regarder la chaîne d'erreurs qui a été décrite par ce rapport, qui mélange effectivement des erreurs humaines, mais aussi tout un tas de défaillances techniques, du matériel, y compris en matière d'identification des cibles, d'identification électronique ou visuelle. Pour nous, ça soulève quand même une question extrêmement lourde, qui est la capacité de contrôle effectif et de précaution dans les opérations militaires des coalitions internationales à effectivement, contrôler les actions qui sont entreprises. C'est un mélange de forces au sol, de forces spéciales, nationales, internationales, très complètes. Et ce rapport semble prouver qu'il y a d'énormes difficultés de communication et de coordination entre ces forces qui ont conduit à Kunduz, à l'attaque d'un hôpital. Le rapport a un point important, c'est qu'il met fin aux rumeurs qui disaient que cet hôpital MSF était une base taliban ou qu'il était utilisé à des fins offensives, etc. Donc déjà sur ce point-là, on est rassuré. Mais il est invraisemblable pour nous de se dire que finalement, on est partout en danger. C'est une enquête interne-américaine. Donc son indépendance d'un point de vue, on va dire, judiciaire, son impartialité, c'est quand même l'attaquant qui fait l'établissement des faits. C'est quand même une première, même si on préférait que la communauté internationale aujourd'hui édicte une norme qui est celle de l'enquête indépendante, parce que c'est un deuxième, j'allais dire, niveau de violence pour les humanitaires. Quand on a été attaqué, de ne même pas être capable de se retourner vers quelqu'un pour faire entendre notre voix et demander des comptes.
40 000 étrangers ont été expulsés du Koweït ces 16 derniers mois. C'est ce que rapporte le journal koweïtien El Anba. Pour Asni Abidi, du Centre d'études de Genève sur la Méditerranée et le monde arabe, les raisons administratives invoquées par cette monarchie pétrolière n'expliquent pas tout.
Il y a bien entendu la raison économique. L'économie pétrolière tourne ralentie depuis plusieurs années. La chute de prix de pétrole, une bonne partie de cette main-d'œuvre a été dépourvue de régularisation, j'allais dire des permis de séjour. Beaucoup de Pakistanais, d'Indiens, de Sri Lankais, parce que d'abord, ils constituent le maillon faible de ces expulsés. Une partie d'entre eux n'ont pas la couverture sociale et ils ne sont pas protégés et défendus par leur consulat ou leur ambassade, mais aussi ils exercent des métiers qui ne sont pas très importants et indispensables pour le Koweït, notamment depuis que le Koweït fait face aux retombées de la crise économique et de la chute brutale des prix de pétrole. La troisième raison est une raison politique. Elle concerne aussi des centaines d'Égyptiens proches des frères musulmans qui ont protesté contre les politiques actuelles. Des centaines de Libanais, surtout de la classe moyenne, qui ont été expulsés parce qu'il y a une décision prise par le Conseil de coopération du Golfe pour punir le Hezbollah et tous ceux qui sont proche de ce parti ou de la mouvance chiite.
La romancière russe proche de l'opposition, Ludmila Ulitskaya, a été agressée jeudi par des nationalistes proches du pouvoir dans une rue de Moscou. Officier de la Légion d'honneur en France, la romancière, traduite dans le monde entier, s'apprêtait à présider la remise des prix d'un concours scolaire sur l'histoire lorsqu'elle a été attaquée. Bruno Kaden.
Ludmila Ulitskaya a été aspergée d'un produit antiseptique vert et a reçu des œufs jetés par des militants du Mouvement de libération et de l'Union eurasienne de la jeunesse, deux organisations nationalistes proches de Russie Unie, le parti de Vladimir Poutine. Le mouvement de libération, par exemple, a été créé par un député du parti au pouvoir et a comme objectif de rétablir la souveraineté de la Russie. L'ambassadeur allemand qui participait à l'événement a également été visé. En criant « fasciste », les manifestants, dont certains portaient des uniformes de l'armée soviétique et des rubans de Saint-Georges, un symbole nationaliste russe, ont brandi une pancarte avec inscrit « Nous n'avons pas besoin d'une version alternative de l'histoire ». Ludmila Ulitskaya devait présider le jury d'un concours scolaire organisé par l'ONG de défense des droits de l'homme russe Mémorial et trois fondations allemandes et intitulé « L'homme dans l'histoire, la Russie au XXe siècle ». Un concours qui existe depuis 17 ans, qui concerne l'histoire contemporaine russe, de la répression stalinienne à la Seconde Guerre mondiale et qui s'adresse à la mémoire
mémoire familiale des collégiens. Le même jour que l'agression contre Ludmila Olitskaya, l'opposant politique Alexei Navalny a également été agressé au pied de son immeuble, aspergé lui de liquide bleu. Tout cela se terminera un jour par une agression à l'acide, a expliqué l'opposant.
Un porte-parole du Kremlin a condamné une agression inacceptable et honteuse qu'il met sur le compte du hooliganisme. À dimanche prochain.
À dimanche prochain, Nabila Hamel. C'est l'une des œuvres musicales les plus jouées au monde. Le Boléro de Ravel est désormais tombé dans le domaine public depuis ce matin. Ce qui veut dire que désormais les droits d'auteur cessent d'être versés 88 ans après sa première interprétation à l'Opéra de Paris. Un après-midi plutôt ensoleillé en France, avec des nuages quand même dans l'ouest. En revanche, dans l'est de l'Alsace, Haut-Rhône-Alpes, après-midi pluvieux avec même des orages dans le Var et les Alpes-Maritimes. Température assez fraîche de 8 degrés en Bourgogne à 16 sur la Côte d'Azur. Merci Martin Desclozeaux pour son aide et Jacques Hubert à la prise de son.